Ça ne vous aura pas échappé, depuis le 7 octobre dernier, les rebelles houthis font monter la pression en mer Rouge. Cette dernière semaine, pas un jour ne passe sans qu'une nouvelle attaque dans le détroit de Bab el Mandeb ait lieu. Cela pose un défi sécuritaire, bien sûr, aux armateurs et aux marines occidentales. Nous en parlons avec François Burga. Il est politologue et spécialiste du Yémen, chercheur maintenant à la retraite, associé à l'Institut des recherches et d'études sur le monde arabe et musulman. Spécialiste du Yémen, il répondait et il répond aux questions de Lucie Gilson.
Les attaques maritimes se multiplient en mer Rouge, la plupart revendiquées par les Houthis qui détiennent une portion substantielle du territoire yéménite et qui seraient affiliées à l'axe de la résistance soutenue par l'Iran à l'encontre d'Israël. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui François Burga, spécialiste du Yémen et ancien chercheur au CNRS. François Burga, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer, les attaques en mer Rouge se multiplient ces derniers jours. Mardi, l'attaque du navire norvégien Strinda a été revendiquée par les rebelles houthis du Yémen. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les principaux enjeux géopolitiques liés à cette attaque et comment ça affecte un peu la région stratégique?
Oui, alors peut-être avant de revenir sur l'attaque du navire, il faut dire que ça n'est qu'un épisode. Il y avait eu auparavant des tirs directs en direction du territoire israélien et qui étaient arrivés, qui ont été stoppés à proximité du port d'Eilat, d'accord? Pour comprendre, il faut dire qui sont les Houthis. Les Houthis, c'est, ou les Houthis, ce sont des acteurs de la guerre civile qui se déroule au Yémen depuis 2014. C'est un camp de la guerre civile. Comment les caractériser géographiquement? Ils viennent du nord, mais il est important de les qualifier religieusement. Ce sont des chiites et une partie de leur alignement sur la lecture iranienne de la région vient du fait que ce sont de co-religionnaires, même si les zaïdites ne sont pas exactement des chiites du haut des simains, mais il y a une proximité idéologique et politique avec l'Iran. Et j'emploie très rarement ce terme parce qu'il est parfois dévoyé, mais je crois qu'on peut légitimement dire que les Houthis ont comme caractéristique des acteurs politiques sectaires en général, et antisémites en particulier, puisque dans leur slogan politique, qui est mort à l'Amérique, vive l'islam, il y a mort à Israël, mais il y a également très spécifiquement malédiction sur les Juifs. Donc on a le droit de dire, alors ils sont sectaires les Houthis à l'égard des Juifs, il n'y a plus de Juifs au Yémen, hein. Vous savez sans doute que 50 000 d'entre eux ont émigré vers l'État d'Israël lors de sa création. Mais c'est donc mort aux Juifs dans la région et à l'État d'Israël tout particulièrement. Ils ne sont pas sectaires vis-à-vis de l'État d'Israël seulement, ils sont et des Juifs, ils sont sectaires vis-à-vis des sunnites, leurs co-religionnaires sunnites, chaféides dans la région. Donc, ces Houthis qui ne sont pas l'État yéménite, mais enfin qui tiennent une bonne part de l'État yéménite, puisqu'ils contrôlent toute la région du Nord et le grand port de Hodeïda, ont un agenda qui est... Je ne dirais pas qu'il est plus anti-israélien que les opinions publiques dans cette région du monde. Simplement, il l'est plus explicitement. La grande différence des Houthis avec d'autres gouvernements arabes de la région, c'est qu'ils sont anti-israéliens, mais eux, ils l'expriment officiellement. Pourquoi? Parce qu'ils le font comme le fait l'Iran, qui est le seul pays de la région qui est dans une posture confrontationnelle explicite avec l'Iran. Les autres ont des attitudes très diversifiées qui vont de la part des États, jusqu'à des accords de normalisation, les Émiratis, Bahreïn, le Maroc, l'Égypte, bien sûr, depuis longtemps. Mais les opinions publiques, ce n'est un secret pour personne qu'elles sont relativement, unanimement remontées contre l'État d'Israël. Simplement, les régimes ne relayent pas cette hostilité à l'égard d'Israël. Eh bien, dans le cas des Houthis, ils la relayent. Et donc, ils ont dit qu'ils sont entrés en guerre, purement et simplement, quelques jours après le 7 octobre. Ils sont très officiellement entrés en guerre. Ça s'est manifesté, comme vous l'avez dit, mais ce n'était pas le début, par l'attaque contre un cargo dont ils ont dit qu'il était lié à Israël. Ce n'est pas très clair d'ailleurs, parce que c'est un cargo allemand. Mais ça s'est manifesté par, je pense qu'on peut dire maintenant, plusieurs dizaines de tirs, de drones et de missiles. Aucun d'entre eux n'a fait des dégâts significatifs. Très récemment, c'est une frégate française qui a été la cible, puisque les Français participent à l'embargo avec les Britanniques, avec les Américains, participent à l'embargo qui est imposé aux Houthis, donc au Yémen du Nord. Donc les Français ont été eux-mêmes la cible d'attaques par drone. Ils les ont tous repoussés. Bon, est-ce que ça a un impact militaire majeur? C'est pas mon métier d'évaluer l'importance d'une attaque militaire, mais non, je dirais que ce n'est pas susceptible de changer le rapport de force dans la région. Par contre, sur le plan économique, on a appris par exemple ce matin que deux compagnies majeures ont suspendu leur envoi de navires par le détroit de Bab el-Mandeb. Ça
Oui, c'est.
suffit à stopper la navigation maritime dans cette région du monde. Donc, c'est relativement significatif sur le plan commercial, c'est relativement significatif sur le plan symbolique et politique, ça n'est pas véritablement sur le plan militaire.
Vous en avez parlé. Donc, c'est l'armateur AP Møller-Mærsk danois qui a annoncé avoir ordonné à ses navires de ne plus passer par le détroit de Bab el-Mandeb jusqu'à nouvel ordre. Donc, quelles pourraient être les implications à long terme de ce changement de route sur le paysage géopolitique de la région?
Alors, ce qu'il faut préciser, parce que tout ça dépend quand même de l'attitude que prendront les États-Unis. Paradoxalement, lorsque Biden est arrivé au pouvoir, quelques jours même avant que Biden, l'administration Biden soit en poste, les États-Unis avaient retiré les Houthis de la liste des organisations terroristes. Donc, c'est pas une réponse très sympathique que leur font les Houthis. Pourquoi les Américains avaient-ils fait cela? Parce que il s'est avéré à tout observateur rationnellement documenté qu'il était impossible de négocier si les Houthis n'étaient pas partis à ces négociations. Hein, parce que toutes les premières négociations sur la crise du Yémen qui dure depuis 2014, qui dure depuis que les Houthis ont pris le contrôle de la capitale de Sanaa, déclenchant en 2015 une campagne internationale présidée par les Saoudiens et les Émiratis, mais avec le soutien des Français, des Britanniques et des Américains, une campagne de bombardement et de guerre au sol pour essayer de déloger les Houthis. Donc, il est vite apparu qu'on était obligé de négocier avec les Houthis. Ils ont été retirés de la liste des organisations terroristes. Mais bon, vous le savez, les Américains ont des bombardiers dans la région. Si les Houthis devaient se révéler trop dangereux, trop durablement dangereux pour le commerce dans la région, il est assez vraisemblable que les Américains montreraient leurs muscles. Je ne pense pas. Alors bien sûr, derrière les Houthis, il y a les Iraniens, et nous sommes pas très loin d'un conflit généralisé. Et bien sûr, l'attitude des Houthis, c'est une manière pour les Iraniens de montrer leurs muscles, très exactement comme ils le font par l'intermédiaire du Hezbollah. Mais je ne pense pas que nous soyons à un moment de l'histoire contemporaine où une guerre générale pourrait se déclencher. Je peux me tromper, hein, mais il convient de voir comment les États-Unis vont réagir. Jusqu'à présent, ils ont juste participé au contrôle militaire des attaques des Houthis. Mais je n'ai pas vu passer de menaces très précises à l'égard du territoire des Houthis lui-même. Donc il faut surveiller de près l'attitude que vont avoir les Américains dans les heures qui viennent.
Alors revenons un peu. Vous avez mentionné le rôle de l'Iran derrière donc ces attaques. Quelle est l'implication réelle de l'Iran à votre avis?
Alors on fait souvent une erreur, on croit que les Houthis n'existent que parce qu'il y a l'Iran. Les Iraniens se sont impliqués deux fois de façon relativement importante dans des conflits régionaux. Le premier, c'est en Syrie. En Syrie, ils ont véritablement, juste avant que la Russie entre en jeu, ils ont véritablement sauvé la mise du régime de Bachar el-Assad. Ils avaient des troupes au sol, hein. Donc, ils ont, par Hezbollah interposé, mais aussi très directement avec des milices iraniennes, sauvé le régime de Bachar el-Assad. Sur le terrain iranien, il n'y a pas de troupes iraniennes. Sur le terrain yéménite, il n'y a pas de troupes iraniennes. Ce que les Iraniens apportent aux Houthis, et cela a été démontré, c'est la technologie aérienne. Ce sont les missiles et les drones. Et vous le savez, puisque les Iraniens ont même exporté des drones en Ukraine, ils ont une technologie de niveau mondial, de premier point. Eh bien, les Houthis bénéficient de cette technologie et ils l'ont démontré en attaquant des bases, des infrastructures pétrolières saoudiennes à plus de 1 000 km de leur territoire. Donc, ils sont capables de mener ces attaques. Et encore une fois, les attaques de drones, un drone, ça vaut quelques milliers d'euros. Et le missile qu'on emploie pour le stopper, c'est quelques centaines de milliers d'euros. Donc, ça a une capacité, les drones iraniens dans la région ont une capacité de nuisance disproportionnée avec l'investissement auquel ça correspond. Donc, encore une fois, les Houthis ont une capacité de nuisance. Les bateaux commerciaux, vous savez, sont des institutions extrêmement fragiles, hein, ils n'ont pas de système de défense. Il faut très peu de moyens pour les endommager. Et là, on l'a vu récemment, ils n'ont pas été endommagés. C'est un hélicoptère, donc à proximité des côtes yéménites, qui s'est posé à l'arrière d'un grand cargo et qui a été détourné ensuite sur la côte yéménite. Donc, ça n'est pas négligeable. Encore une fois, pas sur le plan militaire, pas sur le plan militaire, mais sur le plan commercial, sur le plan politique, c'est un symbole. Disons que les Houthis capitalisent sur l'animosité assez généralisée des opinions publiques dans la région. Donc, même si les Émiratis, les Égyptiens, les Saoudiens ne sont pas dans une ligne de fracture avec l'État d'Israël actuellement, les opinions publiques le sont. Donc, sur le terrain des opinions publiques, les Houthis jouent comme sur du velours. Ils se rendent populaires en participant autrement que par des mots à la défense des Palestiniens.
Et comment la communauté internationale peut-elle réagir à ces attaques et préserver la sécurité maritime en mer Rouge?
Oh ben c'est un vieux problème qui est bien connu, hein, puisque la sécurité maritime en mer Rouge, elle a été affectée à plusieurs reprises, notamment un tout petit peu plus bas du golfe d'Aden par les pirates somalis. Donc, protéger la circulation maritime, c'est un enjeu qui est bien connu, qui se résume à l'investissement de moyens techniques, de drones de surveillance, de bateaux de surveillance et de brigades d'intervention. Il faudrait voir quelle ampleur ça va prendre pour savoir si la communauté internationale va se sentir dépassée. Ce n'est pas le cas actuellement. Bon, il y a eu, je pense, on peut dire quelques dizaines de tirs, hein, d'engins, soit drones, soit missiles. Donc c'est pas une invasion. Et encore une fois, il y en a eu sur le territoire israélien. Il y a eu des attaques conduites
C'est ce que
sur la
j'allais
région du
dire.
Port d'Elat, qui est la plus proche du Yémen. Mais elles ont toutes été, elles n'ont fait jusqu'à présent aucun dégât.
Est-ce qu'on peut imaginer, justement, vous l'avez dit, on a vu des Houthis tirer des missiles sur la ville d'Eilat. Peut-on imaginer qu'Israël doive les évacuer de nouveau à cause de cette menace?
Honnêtement, non, je pense pas que ça ait pour l'instant une ampleur telle que ça constitue une véritable menace. Ces attaques sont un petit peu essoufflées quand elles arrivent à proximité du territoire israélien. Donc, je ne pense pas, encore une fois, que cette stratégie Houthi affecte de façon décisive la situation sur le plan militaire. Je vous l'ai dit encore une fois, sur le plan politique, sur le plan financier et commercial, oui, sur le plan militaire, non.
Cela pourrait-il mondialiser ce conflit un peu plus encore, vous pensez?
Alors, je n'aime pas prédire l'avenir, mais je suis absolument certain que s'il y avait un bateau arborant un pavillon israélien qui passait à proximité des côtes du Yémen, il serait attaqué. En vérité, la guerre du Proche-Orient, elle est déjà mondialisée, ne serait-ce que du fait de l'implication diplomatique et militaire des Occidentaux, les Français en deuxième position, juste derrière les Américains. Non, je pense que si l'intervention des Houthis prenait une dimension véritablement contraignante, c'est plutôt vers l'Iran que se tourneraient les regards des Occidentaux, c'est vers l'Iran que se multiplieraient les pressions occidentales. Oui, alors en ce sens, oui.
Eh bien, François Burgas, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre aux questions de Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes spécialiste du Yémen et ancien chercheur au CNRS. Merci beaucoup.
Merci à vous.